conduise ce moment de méditation.
Prions le Seigneur. Tendre Père, merci pour notre rendez-vous de ce soir pour méditer la parole. Merci que nous étions à l'église. Nous avons suivi ta parole. Nous avons étudié à l'école de dimanche, à la prédication, les prières, les activités. Mais Seigneur, le peuple se donne rendez-vous le soir. Nous aimons ta parole parce que tu as les paroles de vie. Nous venons auprès de toi parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et la parole et la Bible a la parole qui sort de ta bouche. Tendre Père, prépare notre cœur à écouter et pas seulement être des auditeurs oubliés, mais être des gens qui exécutent ta parole et la mettent en pratique. Nous voulons, Seigneur Dieu, que nos vies soient transformées à l'écoute de ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité.
Alléluia.
Seigneur, nous voulons connaître la vérité et que cette vérité nous rende libres. Nous voulons, Seigneur Dieu, marcher dans ta parole. Que ta parole soit une lampe à nos pieds, une lumière à notre sentier. Conduis-nous. Prends, Seigneur Dieu, tout en possession et au contrôle. Sois avec ton serviteur qui nous dirige, Seigneur. Fais que la technologie soit complice, Seigneur, avec nous pour que tout marche. Fais que les gens ne fassent pas de bruit, Seigneur Dieu, qui puisse déranger, Seigneur. Non, nous ne voulons pas cela. Nous voulons, Seigneur Dieu, que l'attention soit soutenue par la puissance du Saint-Esprit et que nous soyons capables d'être en contact avec toi. Et que, Seigneur Dieu, ceux qui vont nous voir vivre, Seigneur, après ce message, après cette méditation, qu'ils remarquent que nous avons été avec toi. Prends soin de nous, remplis-nous du Saint-Esprit, fais sortir ce qui n'est pas de toi, loin de cette étude, et remplis-nous de ta présence et baigne-nous dans l'esprit de ta parole pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.
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 Merci beaucoup, bien-aimé, Frère Thomas, pour la prière. Nous demanderons à notre sœur Kaba de nous lire le passage du jour qui est dans Genèse 44, verset 1. Et ce passage vient avec deux questions. La question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? Et la question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Ma sœur Kaba, pourriez-vous nous lire ce passage?
Merci, frère Gaston. Je lis en Louis II, Genèse 44, 1 à 17. Lorsque Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison, rempli de vivres les sacs de ses gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ses gens avec leur âne. Ils étaient sortis de la ville et s'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. » L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. » Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Il dit, qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocent. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Joseph leur dit, quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Judas répondit, que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. Et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous remontez en paix vers votre père. Amen.
Amen. Merci pour cette lecture claire, ma sœur Kaba. Que l'Éternel vous
Merci.
bénisse.
Amen.
Après avoir dîné, mangé ce grand festin que Joseph avait offert à ses hôtes, voici, il y a un contraste. Joseph procède à une dernière épreuve pour voir si ses frères sont devenus réellement solidaires en rejetant la haine et la jalousie. Il avait ordonné qu'on serve à Benjamin une part 5 fois plus que les autres. Mais maintenant, après que l'intendant de Joseph leur ait dit, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Benjamin, après contrôle, fut trouvé coupable, car la coupe fut trouvée dans son sac. Judas fait une déclaration sincère et lourde d'engagement. Et tous décident de ne pas abandonner leur jeune frère. Judas propose de prendre même la place de son jeune frère trouvé coupable. Nous voici esclaves de mon Seigneur, dit-il. De qui sommes-nous, nous qui méditons cette parole, de qui sommes-nous esclaves aujourd'hui? C'est ainsi, c'est par cette question que nous allons commencer notre méditation très riche, comment nous vivons dans notre société, dans nos familles, dans nos maisons et partout dans notre environnement. Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Je donne la parole à l'Assemblée et nous nous encourageons, nous tous, à partager ces vérités que le Saint-Esprit a déposées en tout un chacun. Peut-être que ces détails, je les trouve négligeables, mais le Saint-Esprit peut les rendre très importants ou quelqu'un d'autre en a besoin à ce moment. N'éteignons pas l'Esprit de Dieu qui agit et qui nous parle. Et il nous a parlé tout le long de la journée. Merci. La parole est à l'Assemblée. Nous avons 2 minutes pour le faire. Qui voudrait briser, être le premier pour briser la glace? Oui, je vois. Je commence avec ma sœur Petronelle. Ma sœur, vous avez la parole.
Merci, bien-aimé, révérend. Merci de m'accorder encore la parole et je profite de l'occasion. Bonjour à toute l'Assemblée qui ne m'ont pas écouté pendant un temps. Dieu est au contrôle du tout. Bien-aimé, pour moi, à partir de ce verset 1 jusque là où il se termine, tel que la question est posée, pourquoi vous pouvez remettre le bien sur le mal? Pour moi, je dois mettre la parole en pratique comme j'écris un Seigneur de justice, demander notre Seigneur. Parce que nous, moi, Pétronelle, on fait le mal. Mes parents, mes ancêtres, ils ont fait le mal. Mais le Dieu créateur lui-même, il m'a pardonné. Jésus m'a racheté. Il a pris la place de toute malédiction, de tout le mal pour le bien. C'est pour cela que ça me dit oui, c'est pas par ma force, par la grâce du Saint-Esprit, et je peux arriver à remettre le bien à la place du mal. Que le Seigneur soit loué.
Amen. Merci. Que je fasse le bien à la place du mal. Que je remette le bien à la place du mal. Merci beaucoup, ma sœur Petronelle. Nous accordons la parole au pasteur José des États-Unis.
Merci beaucoup, frère Gaston. Bien-aimé, j'aimerais répondre à la question, à la septième question qui n'est pas reprise aujourd'hui, mais qui est là toujours. Y a-t-il une vérité que Dieu révèle-t-il? Oui, au verset 1, où nous retrouvons cette parole remplis les sacs de ces gens, donne-leur autant de vivres qu'ils peuvent en emporter. Remets aussi l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Ces paroles sont les mêmes que nous trouvons au verset dans le verset 25 du chapitre 42. Nous lisons. Ensuite, ils firent remplir leur sac de blé et replacer l'argent de chacun dans son sac. Puis, il ordonna de leur fournir des provisions de voyage. C'est ce qui fut fait. Bien aimé, cette répétition m'apprend chose sur Dieu. Dieu nourrit son peuple, Israël, sa famille, nourrit son peuple gratuitement. La fois passée, nous nous souvenons, les enfants qui sont devenus, bien sûr, des grandes personnes, mais ce sont les enfants d'Israël, sont rentrés avec des vivres, et même beaucoup, sont payés. Ici aussi, Joseph reprend ce qu'il a fait la fois passée. Quand nous lisons la parole au verset 23, au chapitre 23 de psaume, ou le psaume 23 tout court, premier verset nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, c'est vrai, Israël et ses enfants ont goûté cette parole. Dieu a pourvu à leurs besoins de nourriture. Pendant que les autres allaient acheter, eux n'ont pas acheté. Même si ils ont disposé de l'argent, mais c'est gratuitement qu'ils ont reçu de la nourriture. L'Éternel est vraiment mon berger et je dois faire confiance en lui parce que ses paroles sont certaines. Merci beaucoup, bien-aimé.
Merci beaucoup, pasteur José des États-Unis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans Ésaïe 55, 1, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien. Payé. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Merci beaucoup, pasteur José, une fois de plus des États-Unis, parce que Dieu fait nourrir son peuple sans argent. Nous accordons la parole au pasteur José du Canada. Pasteur, vous avez la parole.
Merci, frère, pour la parole. Je suis au verset 2, où Joseph est en train de mettre un stratagème en place. Et cette fois-ci, je suis d'accord lorsque on peut dire qu'il teste ses frères. Mais je suis interpellé par la question de la loyauté. La loyauté, c'est un sentiment ou une vertu d'attachement à quelqu'un, dans le bon comme dans le mauvais jour, dans le gain comme dans la perte. Lorsqu'on reste toujours attaché, recherchant le bien de la personne malgré qu'on n'a aucun intérêt à recevoir en retour, cela, ça s'appelle la loyauté. Un peu comme un chien reste toujours attaché à son maître, même si des fois le maître n'est pas toujours gentil envers lui. Le chien, c'est un animal qui démontre la qualité de loyauté. Et nous sommes appelés à être loyaux les uns envers les autres, et particulièrement, je dois être loyal envers le Seigneur parce que lui a toujours été fidèle envers moi. Joseph met un stratagème en place. En fait, c'est comme s'il se posait des questions. Mes frères ont-ils vraiment l'intention d'abandonner mon frère ou de le laisser ou de le détruire comme ils l'ont fait avec moi? Et le temps, c'est vrai, ça fait pratiquement plus de 22 ans que la chose se passe. Et beaucoup de choses sont intervenues entre-temps. Dans la suite, on va voir que ce groupe de 10 personnes a vraiment un cœur qui a été touché par Dieu et ils sont en train de changer. Et la question que je me pose, suis-je loyal envers Dieu? Suis-je loyal envers les frères et les sœurs? Suis-je loyal pour porter à bout de bras l'œuvre du Seigneur? Et c'est l'interpellation que je vois à travers le verset 2, lorsque Joseph met encore en place un stratagème pour éprouver ses frères. Voilà.
Merci beaucoup, pasteur José du Canada. Suis-je loyal envers mon frère, ma sœur, envers la parole du Seigneur, le bien-aimé qui a prié pour recommander ses instants entre les mains de Dieu, a demandé dans sa prière que nous puissions nous laisser transformer par la parole de Dieu et que nous la mettions en pratique. Si suis-je loyal dans la mise en pratique de la parole de Dieu? Merci beaucoup, pasteur José du Canada. Nous accordons la parole à notre bien-aimé Thomas. Frère, vous avez la parole.
Oui, bien-aimé, je suis au verset 2. Il demande qu'on mette une coupe d'argent, mais le verset 5 nous dit que c'est une coupe pour deviner l'avenir. C'est la coupe qu'il utilise pour deviner l'avenir. Et donc, c'est une coupe spéciale. Comme il est resté longtemps en Égypte, il est resté dans la foi en son Dieu, dans la prière, mais ça prend une tournure ici de faire, on dirait, la divination. Et je voudrais seulement nous rappeler que la divination n'est pas... nous ne devons pas faire la divination. Dieu nous a interdit ça en Deutéronome 18, 9 à 14. Il est dit que dans le pays où tu entres, tu ne vas pas faire les pratiques de ce genre-là. Qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu,
personnes qui se livrent à la divination, qui tirent des présages et qui aient des recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, ou qui jettent des sorts, personnes qui consultent ou évoquent les esprits, ou prédisent l'avenir, personnes qui interrogent les morts. En effet, quiconque qui se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à Dieu. Donc, j'ai voulu seulement nous rappeler qu'aujourd'hui encore, le chrétien ne doit pas aller jouer de jeux de hasard, le deviner, tenter, jeu de hasard, montrer sa main à quelqu'un ou se faire prédire l'avenir ou dire que quelqu'un nous dise ce qui va se passer, ceci ou cela. Nous devons faire attention aux pratiques occultes et à la sorcellerie. Toutes ces choses-là et ces pratiques, le chrétien est délivré de cela et ne doit pas le pratiquer dans sa vie chrétienne. Merci.
Amen.
Merci beaucoup, bien-aimé Thomas. Merci de nous interpeller sur ce passage de Deutéronome 18. Il est très important, bien-aimé, que nous puissions nous éloigner de toute divination. Même peu importe l'endroit où nous nous trouvons, si tout autour de nous on les pratique, nous sommes délivrés en tant qu'enfants de Dieu de cela, parce que entre les mains de notre Dieu se trouvent non seulement le passé et le présent, mais aussi l'avenir. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tout ce dont nous avons besoin, la solution se trouve auprès de notre Dieu. Merci beaucoup, frère Thomas. Nous accordons la parole au pasteur Célé ou à maman Christine.
Merci beaucoup, ancien garçon, pour la parole. Bien-aimé, je suis au verset, je peux dire 1 et 2. La dernière partie, quand il donne l'ordre à ses intendants et ils font exactement ce que Joseph demande, ça c'est l'obéissance à l'ordre de Joseph. Et on sent vraiment qu'il y avait une très bonne collaboration entre Joseph et ses gens. Parce que quand il va demander, il demande de placer la coupe chez les cadets. Moi, je réfléchissais au fin fond de mon cœur, pourquoi les cadets seulement? Ils voulaient peut-être recueillir ou voir l'attitude des frères, comment ils vont réagir vis-à-vis de son frère, disons, de même mère. Donc, pour dire que c'est pas que les intentions sont mauvaises, mais on peut aussi arriver à connaître beaucoup de choses en agissant, utilisant cette méthode. Il va découvrir réellement est-ce que ses frères ont-ils changé ou bien ils ont toujours ce même cœur dur qu'ils avaient vis-à-vis de moi. Amen.
Amen. Merci beaucoup de mettre l'emphase sur cette collaboration entre Joseph et son intendant, l'intendant qui ne fait que ce que son maître lui a demandé de faire. Et merci aussi parce qu'il voulait voir comment se comporteraient ses frères. C'est pour cela qu'il avait même, lors de ses festins, donné aux jeunes frères une part 5 fois plus que celle des autres. Merci beaucoup, maman Christine. Nous accordons la parole au pasteur José des États-Unis.
Beaucoup, frère Gaston. Bien-aimé, je suis au verset 8. C'est là où l'un d'eux, c'est-à-dire Judas, est en train de répondre à monsieur l'intendant. Nous avions rapporté des canons l'argent retrouvé dans nos sacs. Pourquoi aurions-nous donc volé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton maître. Oui, ici, il y a la vérité. Il y a la vérité parce que les enfants d'Israël ont certainement ramené de l'argent. Leur papa a dit de reprendre cet argent-là de la fois passée et d'ajouter encore de l'argent pour cette fois. Donc, pour montrer que s'ils avaient les mauvaises intentions, ils n'allaient pas remettre cette somme de la fois passée. Et ici, c'est pour prouver leur intégrité, leur honnêteté. Et ils soulignent quelque chose qui est vraiment positif, parce qu'ils n'ont pas pris de l'argent la fois passée. Par conséquent, ils ne peuvent pas. Malheureusement, ils ne savaient pas que il y a un jeu. Il y a un jeu, mais du moins, la vérité a été dite. Et c'est un exemple à suivre, bien aimé, d'être intègre, de ne pas se laisser prendre par des choses qui ne nous appartiennent pas, et d'agir comme les enfants d'Israël ont agi. Ça, c'est bien pour montrer que nous sommes chrétiens et nous ne pouvons pas faire des choses en cachette. Voilà ce que j'ai voulu souligner, c'est l'honnêteté des paroles prononcées par l'un d'eux. Merci.
Merci beaucoup, Pasteur José des États-Unis. L'honnêteté, cette honnêteté nous est demandée à nous chrétiens qui sommes présents sur ce plateau et à tous ceux-là aussi qui sont en direct de la radio et tous ceux-là qui suivront en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions vivre dans cette honnêteté. L'argent ne résout pas tout, mais celui qui résout tout, c'est l'Éternel Dieu des armées. Merci beaucoup, Pasteur José, nous passons à votre homo du Canada. Pasteur José du Canada, vous avez la parole.
Merci, frère. En termes de bonne collaboration ou même, disons, la loyauté d'un intendant envers son patron, comme c'est dit à la fin du verset 2 et tel que commenté récemment par maman Christine, je trouve qu'il y a un bel exemple à suivre de la part de Joseph, parce que nous connaissons le contexte dans lequel il a évolué depuis qu'il est arrivé en Égypte. Il est pratiquement seul parce que la révélation de Dieu n'était pas encore répandue aux autres peuples. Ça a commencé avec Abraham, ensuite Isaac, et ensuite Jacob, et Jacob a certainement parlé à ses enfants. Jusque-là, tout est encore concentré dans la région de Canaan, à l'exception de Joseph qui est parti en Égypte. Et là, je pense que nous avons dû remarquer hier, lorsque les enfants de Jacob sont venus, au verset 23 du chapitre précédent, lorsqu'ils ont voulu remettre l'argent, l'intendant leur a répondu « Que la paix soit avec vous, ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père qui vous a donné un trésor dans vos sacs, votre argent m'est parvenu. » Et il leur amène Siméon qui était resté en prison. Je me suis dit « Comment cet homme, cet intendant, et tout porte à croire qu'il est égyptien ?» Comment est-ce qu'il a su que c'était donc le Dieu du père de ces hommes-là? Il précise bien, ce n'est pas n'importe quel Dieu, étant donné qu'il y a plusieurs divinités en Égypte, mais il spécifie bien, c'est le Dieu de votre père. En d'autres termes, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob, votre père. Ce qui me montre que Joseph rendait témoignage, il parlait du Dieu de son père. Ce qui fait que cet homme, son intendant, est parvenu à connaître les dieux du père de Joseph. Je trouve particulièrement un exemple à suivre et on peut comprendre qu'un homme qui a assimilé cette vérité-là puisse aussi être un homme de confiance sur qui Joseph peut se baser. Il va exécuter ce que son maître va dire. Et c'est vraiment un bel exemple pour moi aussi, de manière que je sois un homme fidèle sur qui ceux qui travaillent avec moi peuvent compter. Voilà.
Merci beaucoup, Pasteur José du Canada, de cette belle illustration. Et cela nous interpelle aussi en tant que serviteurs de Dieu. Là où nous sommes, où nous travaillons, où nous étudions, où nous œuvrons, c'est là qui sont si proches, nos intimes, savent-ils qui nous sommes? Et savent-ils de qui nous dépendons? Cela nous interpelle le plus. Nous verrons même plus loin comment cet intendant va procéder parce qu'il est dans cette confiance-là avec son maître. Nous, merci Pasteur, nous accordons la parole à notre bien-aimé Thomas.
Bien-aimé, la pensée qui sort dans toute l'histoire ici, les fils de Jacob et leurs frères, c'est au fait la bénédiction que Dieu a amenée dans cette maison par Joseph a été pressentie comme un danger, une menace contre les autres frères et ils devaient donc s'attaquer à lui. Et c'est ça qu'il dit que, au verset 16, il dit que le péché a été trouvé chez eux. Donc, il y a pas, ils se rendent esclaves parce que Dieu a trouvé leur péché. C'était un mauvais exemple de trouver une bénédiction que Dieu dépose dans la famille comme une menace et se mettre à attaquer l'unique moyen de sortir
Allô?
De la pauvreté que Dieu nous donne. Vous m'écoutez?
Oui, bien-aimé, nous vous suivons.
Oui, donc je disais que les fils de Joseph, les fils de Jacob ici, ses frères, ils ont trouvé dans les rêves qu'il avait, dans la bénédiction qu'il avait en lui, une menace, et ils l'ont haï, et ils l'ont attaqué, ils l'ont vendu, et jamais ils peuvent se repentir. Ils n'arrivent pas à dire que nous avons... Donc ils se disent que ce frère-là qu'on avait vendu, il est mort, et ils donnent des témoignages aux gens qu'il n'est plus. Il est rentré chez Dieu, Dieu l'a tué ou quoi tout ça. Il ne confesse pas le péché. C'est un cœur très très dur de ne pas confesser le péché et l'abandonner parce que le péché qui n'est pas confessé, il devient répété et quand on commet le péché de cette manière-là et c'est caché, on ne prospère pas. Proverbe 28:13. C'est lui qui cache cette infraction ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Donc ici, je vois que il faut qu'aujourd'hui encore, je puisse valoriser les qualifications, les dons, les grâces que Dieu nous donne dans la fenêtre, dans l'Église, dans notre famille de sang, pour que nous puissions avancer plutôt que de nous attaquer à ça. Merci.
Merci beaucoup, frère Thomas. Citons les péchés par son nom et ainsi nous coupons les liens avec ces péchés afin qu'ils soient répétitifs. Merci beaucoup. Nous accordons la parole au pasteur Célé ou à Maman Christine.
Oui, merci, frère Gaston. Gaston pour la parole. Ici au verset 9, le verset 10. Au verset 9, c'est l'intendant qui est arrivé. L'intendant rencontre l'équipe qui était de retour vers Cana. Ensuite, celui qui va faire les déclarations, c'est Judas, pour dire, bien, d'abord au verset 9, c'est lui de tes serviteurs, sur qui on trouvera quelque chose, meurt, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Au verset 10, il va bien sûr dire, voilà, je veux vous prendre au mot, nous allons passer par la fouille. Deux leçons que je tire de ces points précis, c'est d'abord les déclarations. Pas parce que nous sommes confrontés à une situation, à un problème subit, que nous pouvons faire les déclarations jusqu'à chercher même la mort pour dire, voilà pourquoi nous sommes innocents. Ça ne servait vraiment à rien de jurer jusqu'à chercher la mort de la personne chez qui on va trouver la coupe. Donc, ayons de la maîtrise quand nous faisons des déclarations. Ça, c'est un. Deux, la première fois, on leur a fait la même chose. On leur a mis l'argent et quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils ouvrent, ils constatent qu'il y avait l'argent. Ils étaient surpris, ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi cette fois-ci, ils ne pouvaient pas, quand ils reçoivent le sac, ouvrir pour regarder? La donne allait peut-être changer. La leçon que je tire, c'est que le passé doit enseigner le futur. Quand nous avons rencontré un certain nombre de difficultés dans la vie, et c'est ça même qui fait que nous avons de l'expérience pour gérer l'avenir, parce que nous savons gérer le passé. Donc, nous ne pouvons pas dire le passé, non, ça ne nous concerne pas, nous, c'est l'avenir. Non, le passé, c'est un grand enseignant pour que nous puissions préparer l'avenir. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup. Pasteur Célestin, je reviens à la dernière parole. Le passé doit nous permettre de mieux appréhender l'avenir. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On t'a ouvert les oreilles, mais on n'a point rien entendu. Nous devons veiller à cela. Et aussi la déclaration faite, fions-nous au Saint-Esprit. Jacob avait utilisé la même déclaration devant Laban. Et voilà que ses enfants font cette déclaration. Lorsque nous venons au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas parce que j'ai une bonne vie ou j'ai fait ma position sociale, mais c'est parce que je reconnais que je suis pécheur. Quelqu'un peut se regarder et dire, je n'ai pas péché. Judas et tout le groupe étaient en âme et conscience sincères qu'ils n'ont pas dérobé. D'ailleurs, ils ont restitué l'argent. Ils n'ont rien dérobé. Mais avant toute déclaration, ne nous précipitons pas. Demandons au Saint-Esprit, pourquoi on m'a posé telle question? Pourquoi cette situation m'est arrivée? Que veux-tu me transmettre au travers de cette question, au travers de cette situation? Et là, je pense que nous aurons la meilleure réponse à donner au lieu d'utiliser, par exemple, nos connaissances ou nos réponses épidermiques. Merci beaucoup, Pasteur Célé. Nous accordons la parole au Pasteur José du Canada. Pasteur, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup pour la parole, frère. En allant dans le même sens, ce qui me paraît un peu étonnant aussi, c'est que il y a eu quand même beaucoup, je dirais pas beaucoup, mais quelques indices qui auraient pu, dans un sens, mettre un peu la puce à l'oreille à ses dix frères aînés, à Joseph. Mais lorsqu'on vit avec une conscience chargée, lorsqu'on vit avec une culpabilité,
assez poignante qui nous tourmente jour après jour, et cela depuis deux décennies ou plus, il devient difficile de discerner les signes de temps. Nous ne pouvons pas saisir ce que les éléments de l'histoire nous apprennent si nous demeurons ou nous vivons avec une conscience chargée. C'est vrai qu'il est dit que Joseph leur parlait par personne interposée, c'est-à-dire un interprète. Même si lui, il entendait, il comprenait ce que ses frères disaient. Mais même lorsqu'il parlait dans une langue différente, il y a quand même le timbre de la voix d'un frère. Même c'est vrai, ça fait 22 ans qu'on ne l'a pas vu. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une intonation dans la voix quelque part. On peut dire, cette voix-là, ça me rappelle quelqu'un. Ça fait maintenant la deuxième fois qu'ils le retrouvent, leur argent à l'entrée de leur sac. Ça peut en tout cas amener à réfléchir. Je suis d'accord avec notre modérateur ce soir lorsqu'il dit, on peut se poser des questions. Pourquoi ceci arrive? C'est la deuxième fois qu'on voit encore notre argent. Qu'est-ce que cela signifie? Mais pour arriver à percer cette difficulté, il faudra aussi qu'on ait une conscience libre, un apaisement du cœur. C'est pour cela, retournons au Seigneur. Si nous avons une conscience chargée, il est dit, car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache qui est répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, à combien plus forte raison le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions des dieux vivants? Si nous sommes purifiés par Christ, nous pouvons avoir la clairvoyance de comprendre les éléments de l'histoire. Merci.
Merci beaucoup, Pasteur José de Calada, de nous interpeller sur la conscience chargée qui nous empêche de reconnaître la vraie vérité. Quel repère ai-je pour reconnaître la voix de mon Seigneur et Sauveur? Cet avant-midi à l'église, on nous a parlé sur Jean chapitre 21 et de ne plus retourner en arrière, mais le passage qui m'interpelle au verset 7, Jésus-Christ pose au verset 5, « Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» Et quand il leur a dit de jeter le filet du côté droit, alors au verset 7, « Alors le disciple que Jésus-Christ aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. » Quand on n'a pas une conscience chargée, on sent, on reconnaît. Il y a des repères, des signes, on dit, non, ça, non, c'est mon Seigneur. Celui-là, non, ce n'est pas la voix de mon Seigneur. Quel repère ai-je pour reconnaître la voix du Seigneur dans ma vie et dans tout ce que je fais? Merci beaucoup, Pasteur José du Canada. Nous accordons la parole au notre frère Thomas. Bien-aimé, vous avez la parole.
Bien-aimé, je suis toujours dans la pensée ici de l'esclavage dont Judas parle et il propose le marché que déjà on doit tuer celui à qui on trouve, chez qui on trouve, et puis eux ils se donnent esclaves. Il aime l'esclavage directement. Il propose le marché qu'ils soient esclaves. Au verset 9, il propose ça et directement aussi. 16, devant le gouverneur, il dit aussi, tous ils sont esclaves. Mais celui qui est venu leur parler, leur a dit tout simplement que vous avez rendu le mal pour le bien. Pourquoi avez-vous? Vous avez fait une mauvaise chose. Et lui, il propose déjà ce marché d'être esclave. Et puis la mort. Il propose la mort et l'esclavage. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et le Seigneur Jésus va dire à Jean 8, il va dire que celui qui commet le péché, il est esclave du péché. Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis, celui qui commet le péché, celui qui vit dans le péché, qui pratique le péché, il est esclave du péché. Et Paul va nous dire en Romains 6, 11, 12, 13, que le péché, nous ne devons pas le laisser régner sur notre corps. Notre corps, nous devons utiliser les membres de notre corps comme des instruments de justice et de droiture, et pas d'injustice et du péché. Parce que le péché nous rend esclaves à l'ennemi. Lorsque nous pratiquons le péché, nous nous habituons au péché, nous vivons dans le péché, nous en faisons une habitude, on devient esclave du péché, on fait le péché, le diable nous fait faire alors ce que nous ne voulons pas faire, alors nous parlons à la bouche, Seigneur, Seigneur, Alléluia, mais dans notre vie pratique, ça devient une vie de péché et l'esclavage est établi. Et c'est à ces gens-là que Jésus va dire, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu, vous, serviteurs, pratiqueurs de l'iniquité du péché. Merci.
Merci beaucoup, frère Thomas. Ne pratiquons pas les péchés, et sinon, nous deviendrons esclaves de ces derniers. J'avais vu la main du pasteur José des États-Unis. Je ne sais pas si, pasteur...
Oui, oui, j'ai demandé la parole, oui.
Je vous la donne, pasteur.
Merci beaucoup, encore une fois. Bien-aimé, je suis au verset 13. C'est là où nous voyons la consternation des enfants d'Israël lorsque ils ont vu que leur jeune frère... et la coupe du patron d'Égypte, deuxième patron, était dans son sac. Les frères consternés déchirèrent leurs vêtements et puis chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Ici, je vois que leur consternation et le déchirement de leurs vêtements, c'est un signe de deuil. Est-ce que, enfin, l'un de nous. Et quel est ce l'un de nous? C'est le plus jeune. Le plus jeune, le fils de papa, a fait ceci. Ils sont concernés. Je vois leur solidarité avec Benjamin, parce que sinon, ils auraient pu dire, bon, c'est son affaire, nous nous rentrons, et nous allons dire à papa qu'il a pris la coupe. Et on l'a retenu. Mais non, il rentre là-bas. Les habits déchirés en signe de deuil et c'est cette solidarité-là qui pourrait faire bouger le cœur de Joseph qui voit que ses frères par cet ajustement ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas comme ils étaient avec moi, ils m'ont vendu, ils ont pris ma robe, ainsi de suite. Non, ici, je pense bien que cet acte, cette réaction a touché le cœur de Joseph. Et c'est bien, frère, que nous soyons solidaires, pas dans le sens que si l'un de nous nous volons, si nous faisons, mais quand même qu'on soit consterné que sa souffrance soit la nôtre et qu'on cherche le moyen par lequel on peut le faire sortir de là. Voilà, bien aimé, ce que je voulais dire de ce verset. Merci.
Merci beaucoup, pasteur José des États-Unis. Ils étaient tous consternés et ils virent la peine de leur papa qui ne voulait pas lâcher Benjamin. Vraiment, le Saint-Esprit est à l'œuvre il y a vraiment de la délivrance au sein de cette famille. Ils pouvaient se dire non, il n'est pas de notre mère, et ainsi de suite. Mais ils étaient tous consternés et ne voulaient plus replonger leur papa dans un autre deuil. Merci beaucoup, pasteur José des États-Unis. Nous allons accorder la parole au pasteur Célé ou Maman Christine et ce sera la dernière intervention pour ce soir.
Oui, merci pour la parole, ancien Gaston. Je voulais souligner seulement le verset 13, comment ils ont déchiré, notre bien-aimé l'a si bien expliqué. Mais je voulais dire, je vais ajouter un mot au verset 16, dernière partie. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui qui s'est trouvé la coupe. Vous vous souvenez, tout à l'heure, ils étaient prompts à dire qu'il va mourir et nous serons tes esclaves. Mais maintenant, ça change de position pour dire que, comme disait le pasteur Célé, même si on est comment sous la pression de péché ou de la situation qu'on a commise, il faut qu'on sache dire de bonnes choses et non souhaiter soi-même faire des sentences comme ça. Et maintenant, ils sont incapables d'exister parce que c'est auprès de Benjamin que la chose s'est trouvée. Regarde, ils sont en deuil, comme on nous dit là. Ils commencent déjà à pleurer. Ils ont pensé comment papa a déjà pleuré toujours Joseph jusque-là. Et si nous, celui-ci, nous le laissons, ça sera dramatique à la maison. Donc, pour dire que nous devons peser nos mains, nos mots plutôt, s'il faut dire quelque chose. Amen.
Amen. Oui. Merci beaucoup, Maman Christine. Bien-aimé, le Saint-Esprit a parlé à tout un chacun de nous. Et après ce moment, nous serons transformés. Nous sommes déjà transformés. Nous devons nous rappeler de ce que le Saint-Esprit a déposé en nous ce soir. Et que nous nous laissons transformer. La parole de Dieu est là, c'est pour que nous puissions aller de mieux en mieux avec le Seigneur par la transformation de ce que nous posons comme acte. Et nous l'avons vu, Joseph pouvait profiter de cette occasion de se venger de ses frères, et surtout qu'après avoir monté ses plans, avec son intendant, il a donné des instructions précises à son intendant. Il pouvait dire, c'est ça l'occasion est là, je récupère mon petit frère Benjamin et les autres, je peux les mettre même en prison, détruire leur vie parce que... Mais il dit, celui-là va rester, vous serez libre d'aller retourner auprès de votre père. Il y a la réconciliation, il y a la place du pardon, il y a la place d'avoir un cœur grand pour laisser l'œuvre du Seigneur s'accomplir. Judas qui s'agenouille, qui s'humilie devant Joseph, même s'il ne savait pas que c'était Joseph, si c'était dans Akana, peut-être qu'il pouvait même bouder et dire « Non, j'ai d'autres possibilités ». Mais l'Éternel utilise toutes les voies pour amener cette famille à la véritable réconciliation. Sommes-nous prêts? Savons-nous pourquoi nous sommes dans ce pays? Pourquoi nous sommes en Amérique du Nord à ce moment, que je sois immigrant ou pas? Mais pourquoi sommes-nous vivants à ce moment? L'Éternel ne fait rien au hasard. Regardons tout autour de nous. Qu'est-ce que l'Éternel a placé devant moi ou autour de moi afin que je puisse porter son nom plus loin pour sa gloire et pour son honneur? Notre Dieu est vivant. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous n'allons pas lire les commentaires du jour, les commentaires faits par notre sœur Gisèle Nadine du Cameroun. Nous allons passer la parole... Avant que je passe la parole au pasteur Célé pour les annonces et pour la prière, je voudrais tout simplement rappeler à tous les membres du bureau de nous rappeler, de nous souvenir de notre rendez-vous du mois. Et celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Merci. Nous accordons la parole au pasteur Célé pour les annonces et aussi pour la bénédiction finale.
Oui, merci frère Gaston pour la parole. À la radio, nous avons connu le frère et sœur de Massachusetts et d'Alberta. Et puis, nous pouvons juste en rappeler que le camp biblique arrive. Donc, sentons-nous, c'est toute la famille FIMES qui organise ce camp. Donc, sentons-nous tous concernés. Ce n'est pas l'affaire seulement du bureau. C'est nous tous, en tant que famille, qui organisons ce camp en Belgique. Merci. Nous allons prier. Notre Dieu, merci pour ta parole ce soir. Merci pour la présence de chacun et de chacune d'entre nous. Cette histoire qui s'est passée il y a des milliers d'années continue à nous enseigner aujourd'hui encore la vie de cet homme, Joseph, que tu as utilisé pour le passage de son peuple en Égypte. A été une grande leçon comment tu gères dans des situations compliquées, dans des situations difficiles, comment tu gères ton peuple. Aujourd'hui encore, nous en tant que ton peuple, les circonstances de la vie continuent à nous enseigner, continuent à nous former. Merci des enfants d'Israël avec leur expérience, Seigneur. Nous aussi, en tant que ton peuple, depuis que nous t'avons connu, tu fais que nous enseigner par toutes sortes d'expériences. Tu restes le même de génération en génération. Que le passé nous enseigne, que le présent nous enseigne, et que tu nous aides, Seigneur, à voir la conscience que nous avons. Si le Saint-Esprit nous montre quelque chose que nous avons fait, qui fait que notre conscience est toujours chargée, nous devons revenir auprès de toi pour nous libérer, parce que tu ne rejettes personne qui vient auprès de toi. Merci pour ton serviteur qui nous a conduits, Seigneur, pendant toute la réunion entière. Merci pour nos frères et sœurs qui nous ont suivis à la radio, qu'ils soient bénis comme nous les avons été au courant de cette réunion. Et même tous ceux qui vont écouter ce message en différé, qu'ils soient aussi bénis, parce que nous voudrons, au travers ce que nous avons partagé, édifier aussi des milliers de gens qui nous suivent, soit à notre radio, soit sur enseignement.com. Nous sommes une source de bénédiction pour plusieurs. Et c'est par grâce que tu nous donnes cette opportunité. Bénis chaque famille, Seigneur. Bénis-nous. Que la paix du Seigneur abonde dans nos maisons. Merci pour le camp biblique. Nous recommandons continuellement à ta grâce. Nous savons que ton œuvre a toujours été attaquée. C'est normal parce que notre ennemi ne veut pas là où ton peuple s'organise. Mais heureusement qu'il a été déjà vaincu à la croix et que nous, ton peuple, nous marchons dans la victoire. Ouvre-nous les yeux pour que nous puissions voir où est-ce que tu veux nous conduire. Ne nous laisse pas aveugles comme les enfants d'Israël qui sont restés beaucoup, beaucoup de jours sans découvrir leurs frères. Que ta paix nous accompagne. Dans les noms de Jésus, nous te bénissons. Amen.
Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour la prière. Notre passage de demain, c'est dans Genèse, chapitre 44, versets 18 à 34. Et j'ai oublié de mentionner les questions du jour. Je n'ai pas mon pain du jour à m'apporter. Merci beaucoup et bonsoir à tous.
Merci.
Merci.